On est le 23 avril 2024 et hier, Jamal Murray made a shot. Bienvenue sur Airball.
On est joué au basket, on arrête ce cirque.
Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté, les playoffs ont démarré, le genou d'Embiid est abîmé, Jamal Murray est déterminé, le Magic se fait bouger. Et McCollum a deux doigts de gagner. On débriefe le premier ou les deux premiers matchs de chaque série avec Urbain. Urbain, vous l'avez entendu dans cette vanne d'intro qui, au lendemain du Game 2 entre Denver et les Lakers, doit l'avoir un petit peu mauvaise, mon petit Urbain.
Ta gueule. Fermez tous vos gueules.
Ta gueule. Fermez tous vos gueules.
Je suis Frank Vogel aujourd'hui. j'ai toujours pensé que c'était le meilleur nom d'entraîneur de s'appeler Vogel. J'imagine toujours un mec rentrer dans un vestiaire et faire Vogel.
Il est où Vogel?
Franchement, et c'est quelqu'un qui l'a même pas vu en direct. Hein, parce que je l'ai pas vu ni en direct, ni j'ai pas vécu le frisson. Je me suis fait.
Il était tard aussi cette nuit.
Je me suis fait baiser par internet. J'ai appris qu'on avait perdu d'un point avant le truc.
Ah merde.
Et j'avais pas envie de voir le match. J'avais très peur qu'il se passe ça. Je ne pensais pas que le seum du premier match, que le sentiment de ah, on est passé si loin, si près, on a quand même fait un bon match, mais du coup, qui est cruel, allait être plus puissant. Je pense que les dieux sont contre les Lakers. C'est très dur ce qui s'est passé. Je vais essayer d'être positif parce que bon, écoutez, bon, ceux qui n'ont pas vu, les Lakers sont, on va résumer très rapidement. Allez. Ils ont fait un super match. D'Angelo Russell s'est réveillé comme on avait dit qu'il le, enfin comme on espérait qu'il le fasse.
6-3 points en première mi-temps pour D'Angelo.
Ce qui est dingue, ils ont eu 20 points d'avance.
Ouais.
Ils se sont laissés rattraper. Le Joker a fait un triple double historique avec 20 rebonds. Jamal Murray a été clutch comme pas possible. Pendant que Davis et James... James a été bon en quatrième quart-temps, mais a raté le dagger final.
Ouais.
Davis n'a pas marqué en quatrième quart-temps. Pourtant, il a été énorme. Et il a aussi... Après, est-ce qu'il a mal défendu sur Jamal Murray? Je pense pas.
Ouais, il pouvait pas faire beaucoup mieux, en vrai.
Et donc, buzzer beater, 99-99. Il reste 12 secondes aux Nuggets. Ils ont marqué. Et puis, tout est cruel. C'est-à-dire qu'Anthony Davis tombe sur le banc avec les Nuggets, on a l'impression qu'ils fêtent le truc avec eux. Enfin,
c'est dur pour lui, ça.
Et donc, pour ceux qui n'ont pas compris la blague d'intro, ben, y a une conférence de presse légendaire qui restera, je pense, pendant des années, peu importe ce qui se passe dans cette série, qui va devenir un mème. Une question très con de journaliste. Je
et
pense...
bah, tu sais quoi, je l'ai en son. Si tu veux qu'on se l'écoute et on le débriefe après la réponse d'Anthony Davis, c'est ça?
Ouais.
Allez, c'est parti. Question con du journaliste, en gros, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette dernière possession où vous avez perdu le match? La réponse, ça dure 5 secondes.
Andrew, what happened on that last play?
Jamal Murray made a shot.
Le vrai gros boom que vous entendez,
oui,
c'est le micro.
C'est bien le mic drop et Davis qui se barre. Je pense qu'il y a beaucoup de métiers courageux dans la vie. Pompier, c'est pas infirmier. Poser des questions du seum, aller voir des gens qui ont un seum intergalactique quand on est journaliste et leur poser des questions stupides, genre
du coup, vous avez perdu, ça doit être dur, non?
Toi qui es journaliste, elles sont obligatoires, cette question. Est-ce qu'on pourrait pas un peu de dignité? Tout le monde déteste les journalistes à ce moment-là, je pense. On comprend pas.
C'est une question con, mais en même temps, ce que recherche le journaliste, moi, si je me mets à sa place, c'est toujours la même chose. Il veut du ressenti. En gros, c'est toujours la même formulation. What went through your mind? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là, dans cette action-là? Et il aimerait, en gros, dans une réponse idéale, que AD lui décrive bah, il est parti un peu sur la droite, moi je le sens comme ça, j'ai tendu mon bras, mais il m'a mis une feinte. Mais le seum est intergalactique, tu l'as dit. Donc à ce moment-là, il faudrait que le journaliste puisse trouver une autre formulation, une autre façon de poser la question qui fasse moins ressortir le seum de Los Angeles. Quoi.
Bah, tu fais bien du corporatisme, je trouve, parce que moi je pense que ce que le journaliste recherche, c'est exactement ça.
Ah, c'est possible aussi. Je ne ferme pas la porte à cette hypothèse.
D'ailleurs, là, on l'insulte, mais regarde, on en parle, ça fait commenter, il est très content. Je pense qu'au niveau des autres journalistes et de sa rédaction, il est félicité d'avoir fait ça. Mais ouais, ouais. Voilà, au final, je disais que c'était un métier courageux, mais non, parce qu'on sait très bien qu'aucun athlète ne va péter un câble. Je jure devant tous les dieux et Superman que si un jour il y a un athlète qui met un coup de tête à un journaliste, je vais crier que c'est pas bien, mais pas trop. Voilà.
Franchement, quelque part,
je comprendrais. Comme le coup de boule de Zizou, je pense qu'il y en a qui pourraient être pardonnés. Franchement, des fois, ça titille trop. Et il faut quand même se rappeler que c'est des gars à fleur de peau qui font 2m10 et à qui tu oserais jamais dire ce genre de petite saloperie si tu n'étais pas protégé. Je ne sais pas où j'en suis là-dessus, mais voilà. Écoute, je comprends Heidi.
Ouais.
Je vais essayer de dire des trucs positifs.
Vas-y. Non, dire c'est dur pour les Lakers, mais vas-y, on reste sur le positif.
Le problème du sport, c'est que on serait limite plus motivé et plus chaud à entamer le match 3 si on en avait pris 40 hier. C'est ça qui est dingue. Alors que ce qui fait qu'on a perdu comme des cons, c'est quand même que... Je sais que les gens vont retenir que les chiffres, mais on les fait chier, cette équipe de Denver. Vraiment, tous les matchs, les 6 derniers matchs, ils sont tous perdus, mais ils ont tous été serrés. Il faut bien le comprendre. Ils reviennent de 20 points hier. On peut regarder le côté « Oh là là, on peut leur faire ce qu'on veut, ils reviendront parce qu'ils sont sereins. » Je pense qu'ils ont eu plusieurs fois de la chatte. Je pense que il faut garder le positif, à savoir... qu'on n'est pas loin. Bien sûr, si près, si loin. Mais il faut se remotiver. Cela étant dit, s'il y a un money time dans le... Il va falloir... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr de gagner le Game 3? Parce que maintenant, c'est défaite interdite. Et du coup, jouer avec le sentiment de défaite interdite, c'est les jambes flageolantes. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal que le champion en titre qui fait une saison exceptionnelle tape le 7e 2 fois chez lui? Est-ce que même c'est pas fou déjà qu'il ait dû s'employer aussi fort 2 fois pour le faire? Finalement, est-ce que c'est pas positif ce que les Lakers font? Rien que le fait qu'on considère que c'est possible qu'ils aient pris ces 2 matchs est déjà un miracle quand on y pense. Non?
Si. En tout cas, ils sont plus proches, même s'il y a eu 4-0 l'année dernière en finale de conf, ils sont moins loin dans les résultats, dans la manière. Ça, c'est, enfin, voilà, il y a moins d'écart cette année entre les deux teams qu'entre l'année dernière. Maintenant, là où j'ai du mal à voir le positif, c'est que tu te dis que sur ce match 2, surtout, les 3 étaient au rendez-vous. Alors, AD passe un peu à côté de la deuxième mi-temps, etc. Mais LeBron et Anthony Davis, il est à 32 points, 14 sur 15 à la mi-temps. D'Angelo Russell, pour une fois, met dedans. Les 3 sont au gros rendez-vous, ils font une grosse défense. Et malgré ça, malgré un plus 20 en troisième quart-temps, ils arrivent à se faire reprendre. J'ai l'impression que là, ils ont fait quasiment le meilleur match qu'ils pouvaient faire et c'est quand même pas passé. Alors, c'est pas fini, mais ce qui est dur aussi, la réalité du sport, c'est que, comme tu dis, moins 40 ou moins 2, bah, ça fait 2-0 au final, quoi. Et ça change rien du tout.
Non, mais c'est ça qui est cruel. Moins 40, je te jure que l'équipe est plus motivée pour les taper.
Mais ça, je te crois. Ouais,
là, il y a un côté défaitiste dur. Est-ce qu'ils vont être capables de s'en servir? Mais normalement, si on suit la loi du sport, ça fait 4-0. Comme j'ai dit. En fait, tout ce que j'ai dit il y a 2 jours sur le premier match, mais en 10 fois pire. Je ne pensais pas qu'on pouvait. Mais vraiment, tout pareil. On a été tous plus forts. L'écart a été bien plus dur. La cruauté de la... Enfin, c'est extrêmement dur, je pense. Et en plus, bon, c'est les Lakers. Donc, voilà, il y a déjà les mêmes qui tournent parce que les gens sont ravis. Ces idiots, ces crétins de Jordanos sont ravis que, sans jamais voir le bon côté, ces gens seraient capables, j'ai écouté ça dans un podcast, ces gens, ces Jordanos seraient capables de dire que LeBron est un nul s'il allait en finale et qu'il perdait contre les Celtics d'un point et il dirait regardez, il est pas clutch, bande d'idiots, il a presque 40 ans, c'est encore quasiment le meilleur joueur de son équipe. C'est un numéro 7 qui va avoir un numéro 2. Tout ce qu'il fait sur un parquet est exceptionnel. Le fait qu'il perde de si peu, c'est énorme. Jordan, à 39 ans, était un obèse aux yeux jaunes. Ne l'oubliez jamais, qu'il avait déjà fait 2 retraites. Ce que fait cet homme est exceptionnel. Et le fait même que vous considériez que c'est possible qu'il puisse battre le numéro 2 en étant numéro 7 à son âge prouve que vous faites de lui déjà... le plus grand joueur de tous les temps. Donc, je déteste. Et bien sûr, c'est les Lakers et c'est LeBron. Donc, Et puis, il y a eu la conférence de presse. Donc, il y a beaucoup de trucs sur Internet qui puent le seum et qui se foutent de leur gueule, quoi. Et je sais que là, il y a des gens qui sont bien contents de m'écouter comme ça. Et ben, sachez que je vous emmerde, que je suis fier des Lakers, fier de AD, fier de LeBron, et que ça nous prouve juste que ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de bouger un Everest. Et que si nous, et je le dis ici, les Denver Nuggets vont être champions, et nous serons l'équipe qui les ont le plus emmerdés, j'en suis certain. Voilà.
Beau statement. Et je ne peux pas vraiment te contredire là-dessus, parce que voilà, quand on regarde les trucs, les choses en face, les matchs en face de LeBron, bah oui, c'est fou. Et puis, quoi qu'on en dise, même si ça finit à 4-0, et ben, ils les auront bien fait chier, en tout cas, les Lakers. Et ça, un septième contre un deuxième. Non, t'as tout dit.
Ouais, c'est gentil. Bah, écoutez, on va passer à autre chose très vite, parce que bon, voilà.
C'est dommage, hein, j'avais le buzzer beater de Jamal Murray en son, mais je ne vais pas le mettre. Je le mets pas. Oh, je vais pas le mettre.
Allez, mets-le pour les gens.
Ah, il est sympa.
Hey, bravo, Jamal Murray. On peut que s'incliner.
Ouais. Ouais. 99 partout, Murray remonte la balle. Ah oui, tu l'as dit, en plus LeBron rate le dernier 3 points, mais on peut même pas lui en vouloir, il en a déjà mis 3 ou 4, enfin il était chaud. Rebond Denver, Murray remonte la balle, et puis bah il prend les choses en main, quoi. Murray makes a move. The Nuggets have won. The Nuggets have won. Allez, On termine là-dessus. Je salue ton côté beau joueur de nous avoir laissé entendre ce petit buzzer beater.
Oh, j'étais pas là, je suis parti.
Je suis parti pisser. Il faut savoir qu'on a fait une coupe de 3 minutes là parce qu'il est parti.
Il n'y a pas que les Lakers qui ont le seum. Au final, nous avons eu 2 matchs exceptionnels hier. Cette et comme nuit. D'hab, Cavs Magic, c'est une série dont on n'en a rien à foutre. Franchement, on peut le dire, les Cavs ont éclaté. J'ai zappé sur le match au début, au milieu, à la fin. Je m'emmerdais comme le premier. On n'a jamais vu le Magic capable de faire quoi que ce soit.
C'est ça, 2-0 pour les Cavs, hein, plus 10 hier, 96-86, les Cavs qui sont en contrôle, comme tu dis, un peu tout le match. Et on a l'impression que le Magic se fait un peu croquer dans l'intensité play-off, quoi, qu'ils ne sont pas un peu genoux encore.
On voit franchement les Cavs sont tranquilles. Toutes les vérités du basket sont là. Tous les jeunes, on parlera d'OKC qui a à peine gagné contre une équipe un peu pourrie de New Orleans. Toutes les darlings sont en train de montrer que oui, les playoffs, c'est pas la même chose. Ce n'est pas le même basket, ce n'est pas l'expérience est fondamentale. Il y a quelques animaux comme Luka, comme Anthony Edwards, comme des gens qui seront toujours au niveau, qui ont été au niveau dès leur première année. Je ne doute pas, par exemple, que dès que Wemby ira, il ne choquera jamais ce gars-là. Voilà, les vieux sont au rendez-vous et les jeunes ne le sont pas. Voilà.
Tu peux préciser, alors j'ai une idée parce que ça fait quelques mois que je l'entends ce terme en écoutant un peu plus en plus de podcasts français et anglais sur la NBA, le terme darling, tu pourrais le définir un peu pour ceux qui ne sont pas calés avec ça?
Ouais, c'est une nouvelle équipe en fait, c'est une équipe de jeunots qui arrive et qui du coup tout le monde s'attache à eux parce qu'ils ont un truc sympa, nouveau.
C'est forcément des jeunes?
Ouais, c'est des...
Okay.
Soit des jeunes, soit une équipe qu'on n'attend pas, genre les Sacramento Kings. Tu vois, c'est pas des jeunes, les Sacramento Kings, mais ça fait 20 ans qu'ils étaient nuls. Et du coup, c'est une équipe surprise, disons surprise, qu'on n'attend pas, avec des joueurs un peu frais et qui souvent apporte...
Genre Indiana pendant la saison.
Indiana était une darling, Sacramento, et c'est celle de l'année dernière.
Okay,
et,
je vois.
Et voilà. Et moi, je suis un vieux briscard de la NBA et je me souviens de toutes ces darlings et il est très rare qu'elles aillent au bout.
Ouais.
Voilà, je suis un petit peu réac. Voilà, j'aime pas. ça me ferait chier qu'une darling aille au bout. Pour moi, j'adore le stand-up parce que je trouve que c'est une discipline très juste et je trouve que la NBA, c'est pareil. À part Magic, Tony Parker, je sais pas, Duncan, la plupart des grands ont dû en chier 5, 6 ans, 7 ans, comme un shonen, pour aller gagner leur premier titre. Et voilà, je pense que c'est pas... c'est rare en NBA, en tout cas. Voilà, c'est pour ça que je vois pas OKC faire un truc cette année. Jamais.
OK. Bon, en tout cas, hier, au Madison Square Garden, il n'y avait aucune darling sur le terrain entre les Knicks et les Sixers. Je te fais vite fait le résumé du match dans la dernière minute, parce que c'est fou, et après, on pourra revenir sur ce qu'on veut. 100 à 96 pour Philly à 47 secondes de la fin. trois points châteux de Brunson qui rebondit une fois. Rebond offensif pour New York, trois points ratés de DiVincenzo. Rebond offensif pour New York. Nick Nurse veut prendre un temps mort, mais les arbitres ne sifflent rien. DiVincenzo reprend un shoot à trois points et ça rentre. Les Knicks reprennent un point d'avance. Josh Hart va mettre ses lancers, 104-101. Jojo Embiid aura le temps de tenter l'égalisation avec un 3 points compliqué, contesté, mais qui passe pas loin. Bref, ça fait 104-101 pour New York, 2-0 pour les Knicks dans une salle en fusion hier soir. Et il y a plein de choses à dire sur ce match. Franchement.
Bah déjà, ce qui est bien quand on est malheureux, c'est qu'il y a toujours plus malheureux que soi. Et donc, aujourd'hui, je pense aux fans des Sixers. Qui là, si ça là, c'était passé pour les Lakers. Non, parce que t'as tout. C'était imperdable. Il fallait le prendre. T'as la petite erreur d'arbitrage un peu incompréhensible. Enfin, pourquoi enfin là, je sais même pas que c'est. Comment ça peut être possible qu'on.
Pourquoi ils n'accordent pas le temps mort ?
Non, mais c'est en vrai.
C'est que quand tu demandes un temps mort, il faut que tu sois vraiment genre en contrôle de la balle. Et apparemment, je ne sais plus qui est par terre, je crois que c'est Maxi qui est par terre. Ils ont dû considérer qu'il n'avait pas à 100% le contrôle du ballon pour pour pas siffler temps mort. Mais c'est ce que j'ai lu. Après, on peut l'interpréter et le contester si on veut. Quoi. Voilà. Mais c'est dur. Ils sont en colère. Hein. Joël, il était vénère contre les arbitres après le match. Il a promis de renverser les Knicks à Philly. Il a dit, je vais manger du New Yorkais, je vais leur arracher la tête et chier dans leur cou. Non, c'est pas vrai. Il a pas dit ça.
Non, en vrai,
il était en colère quand même.
Il s'est rattrapé, oui, mais comme a dit Barclay, j'ai pas trouvé que c'était un bon leader, mon Jojo, hier, parce que il avait tête basse, la tête dans les mains, beaucoup blâmé les arbitres. Je pense qu'il était vénère des deux trucs. Il a quand même dit, mais sans le bon body language, on va gagner cette série, on est la meilleure équipe. Parce qu'il faut. C'est vrai que ces deux trucs-là, on a mal pour les Philly, on a mal pour les Lakers, mais les gars, vous n'avez pas le home court advantage, perdre les deux premiers matchs, il n'y a rien de plus logique en vrai. Quoi.
Oui, c'est juste
que maintenant, bon, bah, c'est à la moitié, vous ne pouvez pas en perdre un chez vous, c'est sûr. Mais les deux séries sont très bien engagées et je comprends le seum de Jojo. Bon, alors, l'explication me paraît logique. Alors, sur ce temps mort, il n'y a peut-être rien de vraiment trop scandaleux. Les gens sont d'accord globalement ou pas ?
Bah, je sais pas trop les gens. En tout cas, à Philly, personne n'est d'accord. À New York, on voit pas de scandale. Nick Nurse, il était dégoûté aussi en conférence de presse. J'ai pas entendu du côté des arbitres une justification ou quoi. Je suis peut-être passé à côté, hein, j'avoue, je vois pas tout. Mais en tout cas, moi j'ai envie de tirer un coup de chapeau quand même aux Knicks.
Équipe qui ressemble aux Knicks, quoi. Et puis à Madison Square Garden, enfin, les images font toujours extrêmement plaisir.
Ouais, ouais.
Les équipes qui en ont chié comme ça pendant longtemps, ils ont les Knicks qu'ils veulent, quoi. Parce que peu importe l'erreur d'arbitrage et tout, peu importe, se battre comme des chiens, rebond offensif comme ça, rater un 3 points et quand même y retourner. Et le mec disait, c'est qui met les daggers ? C'est DiVincenzo.
DiVincenzo, ouais.
Il expliquait qu'il travaillait beaucoup ça à l'entraînement, le côté retenter juste après avoir raté.
Ouais.
C'est vraiment une séquence qu'ils ont bossé.
C'est intéressant, ça.
Je rate, bam, rebond offensif, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, ils se mettent souvent dans des... les bons
dans
entraîneurs.
Des configs de match.
Ouais. Ouais, c'est un peu comme dans 2K où on te dit, ça y est, t'es Jordan, il y a 15 points de retard, t'es sur tel match et il faut le refaire. Tu vois, on te met dans une situation particulière.
Yes.
Et bien, souvent, les entraîneurs font « Bon, les gars, on est à moins 12, il reste une minute. » Tu vois, ils les mettent des fois dans des trucs comme ça.
Et bah, puis surtout qu'ils en grattent tellement des rebonds offensifs cette année que c'est encore plus logique qu'ils les fassent jouer comme ça. Ouais.
Non, mais je trouve ça fabuleux. En fait, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour travailler tout seul que de se mettre dans... Tu sais, comme quand tu es petit et tu dis « Ok, celui-là, si je le mets, c'est comme si j'avais tout, tout gagné. » quoi. Voilà.
Ouais.
Mais c'est faut se mettre mentalement, je pense, dans ce genre de truc. Ça m'a fait marrer qu'ils disent qu'il ait beaucoup travaillé ce truc-là. Et il n'y a pas de secret. Par exemple, non, mais c'est souvent, il faudrait regarder derrière les big shots que ce n'est pas de la chatte. Par exemple, tu sais, l'énorme big shot de Ray Allen, tu sais, qui crucifie les Spurs.
Contre les Spurs, ouais.
Il y a un extrait de podcast où il explique que c'est une situation, ce corner-là, ce truc de dernière seconde, c'est un truc que des. Qu'il a travaillé. C'est genre, chaque fois qu'un mec fait une action comme ça, bien sûr, il y en a un sur mille, ça doit être la chatte, la grâce, on ne sait pas quoi. Souvent, c'est des situations auxquelles ces professionnels ont pensé, ont répété, Et du coup, ça paye en match. C'est beau, quoi.
Surtout que ça venait après un raté de LeBron James, ce 3 points de Ray Allen. C'était vraiment un buzzer.
Il faut arrêter de nous casser les couilles avec les trucs qu'a raté LeBron James.
Des fois, ça sert.
Ça suffit. Non, mais bravo aux Knicks. Série exceptionnelle. On pensait que ces deux séries allaient. Bravo. On pensait que. Non, mais franchement, ces deux séries ne déçoivent pas, quoi.
Non, c'est clair, c'est accroché de ouf. Et puis moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime encore plus avec les Knicks, on l'a déjà dit un peu, mais c'est surtout qu'ils sont accrocheurs, on le savait. Mais ça fait deux matchs que Jalen Brunson, il est super bien défendu. Au match 1, il est à 8 sur 26, j'ai noté. Et au match 2, il est à 8 sur 29 au tir. C'est compliqué pour lui, il passe des matchs compliqués. Mais malgré ça, il met quand même sa vingtaine de points. Et surtout, autour, mais ça s'arrache à parce tous les que... postes. Quoi. DiVincenzo, Josh Hart, Hartenstein, Robinson, etc. Mais c'est Anunobi, du coup, qui est de retour.
Hartenstein, j'aime... si tu veux bien le prononcer, il faut penser que tu es un peu un nazi qui appelle des juifs. Quand il fait une liste dans un stade.
Arrête, parce que j'allais dire, si je le prononce bien, on va croire que je suis à l'aise dans ce costume-là. Très bien.
Non, mais c'est la meilleure manière de le prononcer, c'est de te mettre dans l'énergie Adam Silver, hein. avec un grand, le seul homme, je rappelle, juif et nazi en même temps, avec une grande gabardine de maître, et tu dois faire une liste de gens qui vont aller se faire flinguer.
Est-ce que tu crois qu'à la draft de Hartenstein, Adam Silver, il l'a appelé en criant comme ça?
Bien sûr. Hartenstein.
Et là, les deux, ils se sont fait un clin d'œil. Non, mais ouais, big up à New York. Franchement, ça fait plaisir à voir. Et j'avoue que moi, c'est. Alors, je sais pas si on peut appeler ça darling, du coup, tu vas me dire, parce que le jeu est guerrier. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour les Knicks, là, depuis quelques mois.
Franchement, ne pas aimer ces Knicks. Le meilleur joueur des Knicks. Ce n'est pas Jalen Brunson. Enfin, si, intrinsèquement, c'est même le deuxième meilleur joueur de la série. Mais en vrai, ce qui a fait gagner ces Knicks, c'est le système. C'est ce vieux Thibodeau qui crie, qui n'a pas souri depuis 1974. Il n'y a rien de plus parlant qu'une équipe gagne quand même quand son meilleur joueur est out. Quelles équipes sont capables de faire ça? Le Heat sans Butler qui peut sortir des dingueries.
L'éclipse, faut qu'on en parle, ça aussi.
Ouais, mais bien sûr, on va en parler, mais je veux dire, quand il y a un très bon entraîneur derrière, c'est le genre de truc qui peut se passer, quoi. À savoir, le meilleur joueur est out parce que vous avez tout défendu sur lui, et ben l'équipe est là, les gars. L'équipe est solidaire, le système marche. C'est beau, c'est le beau basket, c'est le beau basket qui gagne.
On passe aux Clips, tant qu'on y est, Clippers, Mavs.
Ah putain, alors eux, pour des gens qu'on fait mentir, alors bon, on explique, ouais. Je vais vous le dire assez
vite. Vas-y. Hein.
Le résumé à la Axel, ça va être autre chose, je vais te le dire. Ils ont tarté les Mavs, Harden a été énorme. Voilà, t'as autre chose à dire?
Sans Kawhi, moi j'ai quelques stats, mais non, mais tout est dit. En vrai, il n'y a pas eu beaucoup de suspense hein, dans ce match, c'est moins qu'on puisse dire.
On les a un peu trop donnés pour mort, les Clippers. Et il y a quand même beaucoup de vieux briscards dans l'équipe. Et puis, de toute façon, ces trucs où, on reviendra sur les Bucks, mais c'est pareil, les équipes qui ont des multiples stars, des fois, c'est antinomique. Ça peut te contrer d'avoir plusieurs stars, d'avoir plusieurs alpha mêles. Moi, je pense qu'il ne faut qu'un énorme alpha dans une équipe. Le fait qu'il y en ait un en moins, là, dans un truc de play-off, ça peut aider. Et là, je trouve que Harden a dit, il n'y a pas Kawhi. Je pense que ça les touche à l'ego, les autres, en disant, mais vous pensez vraiment que juste parce qu'il en manque un,
on
a quatre Hall of Famers dans l'équipe. Il y en aurait un sur les quatre que notre équipe serait compétitive. Vous pensez qu'il en manque un et que ça y est, je suis devenu une merde? Non, et il a fait taire tout le monde et c'était bien.
Là où je suis moins, enfin on verra la suite, mais je suis moins confiant que Harden puisse toujours répéter des perfs comme ça sur toute une série. Là, met 28 points, 8 passes, il est très bon.
Et tu sais ce que je ferais, moi, ce qui est impossible à faire. Mais quand tu as autant d'alpha male comme ça dans une équipe, ce que je ferais, c'est j'en mettrais un qui joue pas à chaque fois. Non, mais parce que je pense que vraiment, quand il y en a trop, ils se marchent sur les pieds. Il y a combien de super teams qui ne marchent pas? C'est parce qu'au basket, partager le rôle de numéro 1, il n'y a rien de plus dangereux que les bonnes équipes. Je pense qu'on ne devrait pas avoir à se poser la question de qui a la balle, qui prend le dernier shoot dans les 15 dernières secondes. Et aux Clippers, on ne saura jamais qui c'est.
Bah, je sais pas. En vrai, c'est bien de se poser la question pour mettre le doute dans la tête des défenses. Et aux Clippers, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt Kawhi, le numéro 1. Enfin, l'option offensive numéro 1, c'est lui quand il est là et en forme. Il n'y a pas trop de discussion là-dessus, normalement.
Ah bon, tu trouves pas que Paul George ou Harden peuvent le mettre, ce tir?
Bah, bien sûr qu'ils peuvent le mettre. Mais Kawhi, dans la tête, même dans son histoire, il a gagné une bague, il a mis des points clutch dans tous les sens. Les autres sont pas allés plus loin qu'une finale de conf. Kawhi, pour moi, c'est le numéro 1.
Trois bagues, je crois, à Kawhi. Hein. Deux avec les Spurs.
Qu'est-ce que j'ai dit? Il a gagné deux bagues. Une bague avec les Spurs et une bague avec Toronto. Autant pour moi. Moi, je dirais Kawhi. Mais ça n'empêche pas Harden et Paul George de mettre des tirs au buzzer. Ils l'ont fait plein de fois en saison régulière.
Ça m'a fait plaisir pour Harden.
Qui montre un peu.
On dit souvent qu'il choque en playoff. Il choque dans les matchs très importants, en vrai. Mais souvent, il peut sortir des performances exceptionnelles.
Alors, grosse défense des Clippers, mais Dallas en panne offensive aussi. Hein. Luka, très maladroit, 11 sur 26. Les Mavs qui mettent, t'as vu ça, 8 points dans le deuxième quart-temps. C'est dur. Ça, c'est très, très dur.
C'est fou.
Et même si Luka finit avec plus de 30 points, Kyrie finit avec 31 points. Kyrie Irving, il fait une bonne deuxième mi-temps, mais bon, c'est un peu trop tard. Mais ce qui est fou, c'est que derrière les deux, Luka et Kyrie à 30 points, t'as PG Washington à 11 points, et derrière... personne ne met plus de 6 points. Et ça, c'est compliqué quand même, quand ça rentre pas et tout. Mais grosse défense d'Eclipse, en tout cas. Ça ils m'ont quand même impressionné, j'avoue, je les voyais pas aussi intenses que ça, quoi.
Bah, ils ont chapeau. Un putain de quoi. Ouais, j'ai hâte de voir. Je pense qu'il y aura quand même 2-0 au final.
Game 2, ce soir, à 4h.
C'est cool. Je pense qu'ils ont fait fermer des gueules parce que vraiment, on était à peu près tous convaincus que les Mavs allaient leur marcher dessus. Après, que... C'est quand même normal de gagner le premier match à la maison, mais c'est vrai qu'il y a eu la manière là. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les Mavs ont plus de chances de faire un gros truc au Game 2 après une déculottée que s'ils avaient perdu d'un point sur un buzzer beater. Bizarrement, je me répète, mais ça fait plus mal d'être prêt. Et au final, une bonne déculottée, c'est peut-être. Je trouve qu'une équipe est jamais aussi dangereuse que quand elle vient d'en prendre 20.
Ouais, non, mais je te rejoins assez là-dessus. De toute façon, ça peut pas être pire. Donc,
ça te surmotive, quoi. Donc, je vois quand même les Mavs, si ce n'est pas gagné, être beaucoup, beaucoup. Je vois le match beaucoup plus serré ce soir.
Moi aussi. Et en même temps, c'est pas dur de voir ça vu le blowout, vu la branlée qu'ils se sont prises.
Mais bon, les doutes sur Jason Kidd persistent. Je pense que c'est lui qui a pris un petit peu cher. Après, on n'est toujours pas persuadé que ce soit un stratège excellent, surtout dans les grands moments. Tyronn Lue, lui, est extrêmement bien respecté. Est-ce qu'il ne va pas se faire out-coacher, notre ami?
À voir. Mais c'est sûr que c'est pas, en tout cas, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des critiques sur son coaching à Jason Kidd.
C'est sûr. Donc là, ça s'était un peu rattrapé. Mais une autre comme ça où... c'est pas compliqué hein, de toute façon. Quand ton équipe met 8 points dans un carton, c'est le coach. Non, mais sérieux. Parce que ça veut dire que les mecs ont trouvé un truc super pour te faire chier et que tu ne trouves pas la parade. Ou que tu n'y penses même pas. Ou que tu fais confiance. Enfin, dans tous les cas, tu as tort. Ça ne peut être que l'équipe. Pareil, Darvin Ham, hein, il s'est fait beaucoup critiquer dans tout ce que j'ai entendu hier. Mais oui, quand tu mènes de 20 points et que tu te fais rattraper, ce qui est revenu beaucoup comme critique, c'était d'avoir trappé Jokic à 2. Alors que c'est le meilleur passeur de la ligue, et ce qui fait que se foutre à deux sur lui fait qu'il a libéré des tirs ouverts à 3 points, alors que peut-être que la stratégie c'était de le laisser mettre ses 2 points. Et d'ailleurs, je pense encore que c'était un des trucs que je reviens sur les Lakers, je suis désolé, mais je pense quand même que beaucoup de gens en parlent, que des fois, au lieu de faire en sorte que Jamal Murray fasse le match de sa vie, il faut peut-être laisser Jokic en mettre 50. Il y a plein de fois où en mettre 50, c'est l'assurance qu'en fait les autres n'en mettent. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, il faut faire des choix. Faut faire des choix.
Franchement, je pense que le poison de se laisser prendre des 2 points par Jokic, il fait moins mal que Jamal Murray et tous les tirs parce qu'ils ont trop de gars clutch qui mettent des tirs ouverts. Voilà. Mais c'est le cas de. C'est souvent hein, qu'il faut peut-être laisser le. Tu vois, Jojo Embiid aussi, je pense que si j'étais les Knicks, je le laisserais un petit peu plus. Parce que pareil, très bon passeur, c'est très dangereux. Un pivot très fort qui est capable de trouver des gars ouverts. Et Jokic, c'est le meilleur du monde pour ça. Bref.
On va passer très vite fait sur la série où il y a le moins de suspense, Celtics-Miami, et c'est pas pour me déplaire. Plus 20, 114-94 pour ce match 1, pas Jimmy Butler, on le rappelle. Voilà,
je pense collectif. Qu'ils sont crevés, Miami, et oui. Qu'ils vont quand même, oui, comme on a dit, en prendre un à la maison. Mais bon, c'est bien, Boston se respecte. Je pense qu'ils sont très contents qu'il n'y ait pas Jimmy Butler.
Oui, ça c'est sûr.
Mais oui, ils n'ont pas fait le. Ils n'ont pas choqué. Ils auraient pu, parce qu'il y a tellement d'attentes sur eux. Non, ils ont été énormes.
Ils ont fait un gros début. Je crois qu'ils mettent un 17-2. Ils envoient tout dedans. Et pour moi, le plus gros suspense, c'est de savoir si ça va finir à 4-0 ou à 4-1 quoi, pour Boston.
Ouais, bah, ça serait normal. Mais c'est vrai que là, il faut s'économiser. Ça sera peut-être plus dur. Parce qu'ils ont fait des conneries l'année dernière. Ils sont extrêmement frustrants, les Celtics, à perdre des matchs faciles à la maison. Ouais. Faut vraiment, vraiment pas qu'ils s'amusent à faire ça. Même
pas
là,
qu'ils se relâchent.
Franchement, en vrai, on dit du « Ah, il y a peut-être un à Miami ». Mais en fait, non, les gars. Pour des questions de calendrier, de repos, de tout, c'est une faute professionnelle de ne pas mettre 4-0. C'est bon, c'est le 8, il n'a pas son meilleur joueur. Vous êtes excellent. Franchement, ce 1, il ne faudra pas leur laisser. Ça doit s'effoler. Matadoré, quoi. C'est fini 4-0.
Non, je suis d'accord.
C'est trop important.
C'est bon. Eh, ça va. Match 2, quand est-ce qu'il est le match 2? Je l'ai noté ça. Demain soir, à 1h du matin. Peut-être le matin, celui-là. On va voir.
Oh, bah profite.
C'est ça. Il y a Pacers Bucks, dont on peut parler, vite fait. Et alors, ensuite, je crois qu'on aura fait presque le tour. Il nous reste Pacers Bucks et éventuellement Pels Thunder, à voir si on fait les deux ou pas. Mais Pacers Bucks, vas-y, commençons par là.
Qu'est-ce que je t'avais dit sur les petites darlings, les petits Liberty?
J'ai des trucs à dire là-dessus. Peut-être que je retourne un peu ma veste, on va voir.
Et qu'est-ce que je t'avais dit sur juste Damien Lillard, entouré comme ça, sans Giannis, c'est déjà hyper dangereux.
Moi, j'avais dit attention à Lillard en play-off aussi, on va le retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Il met 35 points en première mi-temps.
Bon. Alors bah, ça aussi, des stats qui n'ont aucun sens. 35 en premier, 0 en deuxième.
0 en deuxième, c'est ça.
Non, mais soit ils ont compris le plan anti-Lillard sur la deuxième, soit l'autre, il s'est dit, c'est bon, j'ai fait le taf, on sera jamais rattrapé. Et puis voilà.
Je pense que c'est un peu ça, à mon avis. Parce qu'il n'y a jamais eu de suspense.
Bah ouais.
Plus 27 à la mi-temps. Il n'y a que Siakam en face qui met 36 points qui a été bon. Haliburton en dedans. Et les Pacers trop tendres en défense, surtout. Enfin, c'est pas...
Ça fait peur. Tu vois, ce Siakam. Il est venu et il est excellent, mais il a trop d'expérience par rapport aux autres. Et je pense qu'il fout le bordel, en fait. Ils avaient leur espèce de lignée de « oui, ok, on défend comme des merdes, mais au moins on va au bout de notre truc, on met 140 pions et essayer d'en marquer 142, on verra ». Et je trouve que Siakam, en fait, c'est évidemment un excellent joueur et la preuve, c'est que c'est lui qui s'est le montré en play-off. Mais je pense qu'il fout le bordel dans un système qui pouvait marcher... au moins pour passer un tour. Et je pense que ce gars se dira « Ah oui, c'est vrai, on défend mal, donc on va défendre avec ce gars. » Et ben, c'est un calcul, mais ce qui fait qu'en fait, ils ont peut-être un peu perdu leur identité. Et
leur identité de ne pas défendre, du coup.
Mais ouais, mais non, mais c'est con des fois au basket. Il y a des gens, ils font ça. Notre ami Jim Carrey qui a le cancer, là, et ça a toujours été son truc. Je parle du coach des Pacers.
Ah, mais voilà, j'étais bouche bée là, tu venais de m'annoncer un truc, t'es ouf toi, dis pas des trucs comme ça.
Mais non, mais c'est, regarde, tu peux taper le nom de, comment il s'appelle ce coach?
Le coach des PS, Carlisle, je crois.
Tape, s'il te plaît, regarde sa tête.
Oui, bah il est blanc, il est chauve, il est fatigué, c'est ça.
C'est Jim Carrey qui a le cancer, c'est juste, on voit que ça. Je sais parce que je l'ai dit à un pote et depuis il me dit je vois que ça, c'est...
Oui, c'est vrai, effectivement.
Bah, c'est sûr.
Il a une ressemblance avec Jim Carrey et donc il est chauve, donc on associe la maladie, c'est
non,
ça.
Non, mais voilà, parce que c'est chauve maladie, je sais que toi t'es chauve, mais lui c'est chauve maladie, puisqu'il a toujours l'air triste. Vraiment, dans Jim Carrey dans Man on the Moon, quand il joue Andy Kaufman, il a le cancer, il commence à être chauve, à être tout pas bien, tout triste, tout maigre, et ben bah, c'est... Carlisle, mon gars, c'est le même gars.
Vous taperez Eric Carlisle si vous voyez pas sa tête et vous nous direz ce que vous en pensez.
Et Man on the Moon, qui est un super film où Jim Carrey, c'est un biopic d'un comique américain qui s'appelle Andy Kaufman et qui, à la fin du film, a le cancer et c'est Eric Carlisle. Bon, bref. Je sais pas si ça a pas foutu le bordel un joueur comme Siakam. Du coup, ils ont changé d'identité, ils savent pas plus quoi faire.
Moi, je dis si ça a foutu le bordel, c'est possible, hein, mais si ça a foutu le bordel, c'est quand même mauvais signe parce que c'est quand même une recrue pour faire step up ta défense. Et si la défense arrive pas du tout à s'adapter, c'est qu'il faut reprendre les bases, tu vois, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quand même ça sent pas très bon, quoi.
Non, mais c'est que c'est compliqué le basket, c'est tellement un tout. Des fois, ajouter un joueur excellent, ça fout... il vaudrait peut-être mieux un joueur moins bon mais qui rentre plus facilement dans le système et qui est plus capable de lui dire exactement ce qu'on veut faire qu'un joueur excellent. J'ai l'impression que finalement cet ajustement qui paraissait malin, que tout le monde a trouvé malin, moi le premier, eh ben c'est peut-être une connerie. Voilà. Je trouve ça quand même bizarre que ce mec qui vient dans l'équipe soit celui qui a de loin les meilleures stats au premier match de play-off. Je trouve ça hyper parlant. Voilà. Ça prouve qu'en fait, c'est peut-être devenu un peu son équipe, que les autres le respectent un peu trop et que du coup, il a cassé la machine. Mais c'est peut-être de la merde, attention.
Mmh. Oh, ça, c'est un postulat de tout ce podcast, de toute façon.
C'est même fortement possible. De toute façon, j'aime pas les Pacers. J'aime bien et je suis très content que Lillard ait fait ça. Bon, je trouve ça quand même bizarre de s'éteindre totalement en deuxième mi-temps. Et il y a aussi un shout-out que j'aimerais faire, un joueur des Bucks que j'adore.
Vas-y.
Quand est-ce que ça va arrêter d'être une blague, notre ami Bobby Portis, quoi? Juste parce qu'il a des gros yeux et qu'il a l'air con, on considère qu'à chaque fois qu'il fait un move ou qu'il met un 3 points, on fait « Oh, bah dis donc, Bobby Portis, genre c'est étonnant ». Et en fait, juste, il va falloir qu'on accepte, les gars, que juste il est fort, en fait. Qu'il est dans le starting five d'une des meilleures équipes de la Ligue depuis hyper longtemps.
Non, il est sorti de banc.
Il est sorti de banc ?
Ah bah oui, depuis longtemps.
Oui, non, fait, ok, pardon, mais que c'est un joueur important de la rotation.
Mais c'est un des meilleurs sixièmes, en tout cas.
Voilà. Et que, je sais pas, on le prend toujours pour une blague. Je te dis, c'est parce qu'il a l'air fou. Et on se dit, oh, dis donc, Bobby Portis. Mais sauf qu'en fait, ce gars, il a un arsenal. Même lui, il a l'air étonné chaque fois qu'il fait un move, comme Rudy Gobert qui fait Nola Yuan. Sauf que, mec, il est bon, quoi.
Enfin, bien sûr.
Il est super bon, en fait. Donc,
il y a encore beaucoup de gens qui le prennent comme une blague. J'ai pas l'impression. Hein.
Ah, mais j'ai quand même toujours l'impression qu'on dit, oh, Bobby Portis, c'est tout d'un côté comme
il
ça.
Il est marrant, ce
entre dire. Les coachs et les. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? Il nous fait qu'en fait, il est toujours bon, ce gars. Et moi, je le trouve excellent. Quoi.
Ouais, il est fort. Et je trouve qu'il est plus fort, enfin, qu'il progresse surtout. Et ça, c'est vachement encourageant. Et alors, ça va te faire plaisir. Moi, je suis passé par deux phases avec Bobby Portis. La première phase, quand je l'ai découvert il y a, je sais pas, 3-4 ans. Je me disais, il me faisait penser à un méchant dans Tintin, avec ses gros yeux, très clairement. Et je le trouvais surcoté, quoi. Je fais, oui, bah, il met sa dizaine de points en sortie de banc, mais voilà, faut arrêter. Il met un peu d'énergie, mais arrêter avec Bobby Portis, arrêter avec lui. J'avoue, il y avait un peu un délit de sa gueule. Je n'aimais pas trop, sa tête me faisait peur. Et après, force est de constater qu'avec son amélioration, bah ouais, en fait, le gars peut changer beaucoup de choses sur un parquet. Et en défense aussi, il est vachement intense. Et non, il est juste fort. Et puis, il a l'air cool comme gars, en vrai. Quand t'écoutes un peu ses interviews, ça a l'air d'être un gars bien.
Non,
ça a l'air.
Vraiment, je l'aime bien. Et bon mec de playoff aussi. En fait, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bons mecs de playoff chez les Bucks. Je leur fais...
Ouais, c'est ce que je voulais dire aussi.
Je leur faisais vraiment confiance avant la série. Et je leur fais confiance. À mon avis, il y aura 2-0.
4-0 ou 2-0 ?
Non, enfin, déjà 2-0. Après,
ah, déjà 2-0. Bah, le match 2, c'est ce soir à 2h30. Et j'avoue, moi, j'avais dit 4-3 pour les Pacers parce que je me disais que chez les Bucks, il y avait un fruit pourri tu vois, dans le vestiaire. Et en fait, bah, faut quand même rappeler que oui, il y a des gars comme Portis, Middleton, Pat Bev qui ont plus d'expérience que bah, tout le roster d'Indiana réuni, ouais. Je pense.
Mais en vrai,
et la défense Indiana m'inquiète vraiment. Donc... Ouais, je suis pas sûr de mon prono. Je reste dessus, hein, mais
je reste sur ma théorie du alpha male. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on ne pourra jamais faire à cause de l'ego des gens, de l'argent qui coûte et aussi parce que je dis peut-être absolument de la merde. Mais j'aimerais que des fois Doc ils disent aujourd'hui c'est le Lillard game et demain c'est le Giannis game. En fait, je mets pas mes deux alphas en même temps. En fait, j'ai deux équipes parce qu'en vrai, comme je disais la dernière fois. Giannis entouré comme ça, c'est une équipe de ouf. Lillard entouré comme ça, c'est une équipe de ouf. Et je ne suis pas sûr que Lillard et Giannis entourés comme ça, ça fasse augmenter. J'ai l'impression que deux alphas se tirent un peu dans les pattes d'une façon ou d'une autre. Et je suis sûr que l'équipe juste de Lillard, juste de Giannis, elle est plus forte que l'équipe où il y a les deux.
Moi, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Les deux gars sont assez intelligents pour pas trop tirer la couverture et sentir laisser le match venir.
Mais ça reste deux alpha. Scottie ouais. Pippen n'était pas un alpha.
Ouais, mais regarde, il y a eu plein de fois. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, Pippen évidemment. Mais il y a eu plein de fois dans la saison.
Les bons duos, c'est pas deux alpha. Regarde Shaq et Kobe. Quand c'était clairement Shaq le plus puissant, ils ont tout gagné. À partir du moment où Kobe est devenu presque aussi fort que lui et que les égos ont commencé, ça a commencé à plus marcher. Là, Giannis et Lillard, ils sont tous les deux beaucoup trop forts. Lillard n'a pas dit c'est l'équipe, il n'a pas tout montré en mode c'est mon équipe et tout. C'est l'équipe de Giannis, je suis un lieutenant, je suis une petite merde. Ils sont tous les deux trop forts. Moi, je ne crois pas aux équipes où il y a deux alpha mates. Je n'y crois
Giannis
pas.
A dit c'est l'équipe de Lillard maintenant.
Bah, c'est trop con. C'est trop con parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Tout le monde sait que c'est l'équipe de Giannis. Depuis le début, c'est lui qui a gagné avec eux. C'est clairement pas l'équipe de Lillard. Ce sera Lillard de dire c'est l'équipe de Giannis. Mmh. Et ils peuvent le dire. Kyrie, il l'a dit pour Luka et j'y ai cru. Mais tu vois, parce que Luka le respecte, il lui dit l'inverse. Tu crois vraiment que Jordan a dit c'est l'équipe de Pippen ? Non, c'est l'équipe d'un gars. Et quand il y en a deux, ça marche pas. Je pense que c'est ça le problème chez les Bucks. C'est pas autre chose. Mais bon.
À voir, à voir. Mais en tout cas, je pense que ce serait quand même une connerie de mettre, d'en faire jouer un sur deux. Parce que si c'est un soir sans, bah tu t'es niqué. Mais théorie intéressante. Théorie intéressante.
Bah, c'est le but de faire des théories, hein, pas de merde.
On est là pour théoriser. On est au comptoir, on n'est pas au comptoir. Qu'est-ce qui se passe ? Pels Thunder, dernière affiche, c'était dimanche soir, 94-92 pour OKC, pas de Zion hein, donc du côté des Pels, match serré tout du long, égalité à la mi-temps, 43 partout, petit scoring, ça joue dur, ça joue serré. SGA met deux derniers tirs à mi-distance, dont un avec la faute, il termine avec 28 points. Et puis McCollum, je sais pas si tu vois l'image, CJ McCollum des Pels a le ballon dans les dernières secondes. Où il prend un tir à 3 points pour éventuellement faire gagner les Pels qui passent pas loin. Hein. Oui, ça touche le cercle, ça passe vraiment, vraiment pas loin. Mais...
Je n'ai pas vu, je m'étais engagé à ne pas voir. Donc pendant NBA Extra, j'ai passé en c'est audio, vrai, j'ai joué ça, à oui. Tetris. Je regardais NBA Extra et quand ils ont mis ça, j'ai dit je ne regarderai aucune image de ce match de merde.
Je refuse.
J'ai écouté en audio vite fait. C'est exactement ce que je pensais. Que OKC était assez nul et pas du tout formé pour être numéro 1 et qu'ils étaient capables d'en chier face à cette équipe. Ils ont gagné, super. En avoir autant chié pour éliminer, enfin pour mettre un match 1 devant une équipe de New Orleans nul à chier à qui il manque leur meilleur joueur, c'est tout pourri. Voilà, ces deux équipes toutes pourries, je ne les respecte pas et je ne regarderai rien et ça ne m'intéresse pas. Et voilà, honte à OKC d'en avoir autant chié face à un adversaire aussi nul.
Grosse défense des Pels aussi, mais bon, oui, ils en ont chié. C'est vrai qu'ils en ont chié, il n'y avait pas trop d'adresse.
C'est pas normal.
Non, bah en plus, c'était chez eux et tout.
C'est pas normal.
Il n'y a que SGA au final qui a respecté sa moyenne de points. Holmgren, il a été quand même bon. Il a fait quoi ? Il a fait 15 points, 11 rebonds, 2 passes et 5 contre quand même. Il a été. Enfin voilà, il n'a pas de choqué quoi. Et après, c'est vrai que derrière, Josh Giddey, il était un peu transparent, complètement transparent. Les Williams, là aussi, ils n'ont pas mis beaucoup de points. Et vraiment, parce qu'on ne l'a pas trop dit, mais entre Trey Murphy, Herb Jones et j'en oublie un troisième, mais il y a 2-3 défenseurs très très bons chez les Pels, en fait, quand ils sont un peu locked in. Quoi.
Ils vont les faire chier.
Ils vont les faire chier. En tout cas, c'est parti pour.
Je maintiens mon 4-2, ils vont les faire chier. Je maintiens de je ne regarderai pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Non, mais en vrai, ce qu'on peut voir, c'est que quand même, on l'a vu toute l'année, mais clairement, la conférence Ouest, c'est un truc de débile. Parce que ce 8e est en train de. Je plaisante sur OKC qui n'est pas un vrai numéro 1. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est pas un. Pourquoi c'est pas un vrai numéro 1 ? Parce qu'ils sont à peu près à égalité de victoire avec Denver et Minnesota. Et qu'en plus, si on devait faire les pronostics de OKC contre Denver ou OKC contre Minnesota, on les donnerait toujours perdants. Donc ça, c'est pas un vrai numéro 1. Parce que Boston, c'est un vrai numéro 1. Parce qu'on les voit gagner tous les matchs de la conférence Est et ils mettent 12 victoires d'avance au deuxième. Donc c'est pour ça que OKC, c'est pour ça que je les considère pas comme un numéro 1. Mais c'est normal, la conférence Ouest est beaucoup trop dense. Donc
ouais.
C'est, voilà, 1-8 à l'Est, on rigole. Et 1-8 à l'Ouest, on se dit quand même que ça ne peut pas passer, mais on sait que ça va être serré. Quoi.
C'est vrai. C'est vraiment la grosse différence entre les deux, entre le niveau des deux conférences quoi, cette année. C'est assez flagrant.
Les Lakers, ils sont 7, ils ont 47 wins. C'est énorme.
Grave.
Mais ouais, je sais pas. Bon, elle t'intéresse cette série en vrai ?
Alors déjà, moi, je vais regarder presque tous les matchs qui sont diffusés sur Bein parce que je n'ai pas le League Pass.
Ça, c'est quand même mon petit Axel. Et on va créer un
Tipeee pour me donner le League
un
Pass.
Un Tipeee, non, mais Buy Me a Coffee, comme il y a sur Plutôt Caustique. Comme ça, vous pouvez donner ce que vous voulez. 1 euro, voilà. Si vous avez écouté tous les épisodes, donnez 2 euros. Vous êtes 10 à le faire et mon Axel, il peut avoir un League Pass.
Mais en vrai, je suis deg parce que le League Pass, moi, j'avais l'habitude, il y a encore quelques semaines, quelques mois, d'acheter un match de temps en temps, tu vois, en one shot. Et là, tu peux plus.
Non mais là, en vrai, tu peux plus en vrai Axel, t'es pas tu veux que je te défile les... parce que là
non,
c'est
non non ça
non mais il y a un mois de play-off, ça va te coûter 20 balles. Prends le League Pass. C'est même professionnellement, t'es obligé en vrai. Parce que le lendemain, ouais, avec le League Pass, le lendemain, tu peux te mettre All Possessions et donc regarder que 40, un match en 40 minutes. Donc en vrai, pour un mois, c'est 20 balles, tu les mets, c'est bon, ça suffit. La prochaine fois qu'on parle, tu as le League Pass, c'est ridicule.
Ouais, 20 balles.
Bah oui.
Oui, je vais le faire, je vais le faire. Mais,
non, bah, mais sérieux, sois professionnel un petit peu.
Hey, on parle déjà. Je prends le Ocha, le service qui nous héberge et qui nous diffuse sur,
c'est vrai,
sur mes frêles épaules.
Mais t'as raison. Il faut vraiment qu'on.
On en reparlera dans quelques épisodes.
On va le faire. On va le faire le Buy Me a Coffee. Non, mais c'est normal. Là. C'est bon. On a des frais. Ça va pas nous coûter du pognon en plus.
Eh oh. Merde. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a ce soir? On a trois affiches. On va vous les donner quand même, même si ça dépend à l'heure où vous écoutez le podcast. Mais il y a le deuxième match de Suns Timberwolves ce soir. Il y a les Pacers Bucks et Mavs Clippers.
Les trois. J'ai envie de voir les trois.
J'avoue. Et
les trois sont un peu incertains en plus. Moi, je vois bien. Et puis ça y est, il faut qu'il y ait une équipe qui gagne à l'extérieur. Merde, on va pas se faire 2-0.
C'est pas encore arrivé.
Court advantage pour tout le monde. C'est fou.
Sinon, on se fait chier. Voilà, en tout cas, on débriefe, on continue de débriefer surtout ce premier tour des séries de playoffs. Et même si, comme tu viens de le dire, il n'y a pas encore eu d'upset avec des victoires à l'extérieur, ça va finir par arriver.
Non,
toute série se rapproche de sa fin, hein, comme
on
dit.
Les playoffs se sont définitivement lancés hier. Deux matchs de ouf dans deux séries de ouf qui se décident à la dernière seconde.
C'est vrai.
On y est, les amis, on y est. On a clairement arrêté cirque et on s'est remis à jouer au basket, je vous le dis tout de suite. Quoi.
On a arrêté le cirque.
le shout-out, je l'ai fait tout à l'heure. Non, c'était Bobby Portis.
Ouais, t'as fait un shout-out à Bobby Portis.
Non, mais alors, je sais plus. Non, je voulais dire, j'ai vu un truc sur un compte fan de Victor Wembanyama, une photo de Curry en Spurs. Ça commence à faire rêver les gens. Voilà. Si c'est le moins transférable de tout Golden State, mais si venait à tout péter, est-ce qu'on se ferait pas une ou deux saisons incroyables
Mais ça, t'as vu, c'est quoi? C'est des rumeurs ou c'est des insiders? C'est quoi? C'est juste un photomontage?
C'est un photomontage, c'est des rêves pour l'instant.
Ouais, ok, ouais, très bien.
Mais c'est vrai qu'on n'avait pas osé y penser, mais dans le genre. Quand même pas dingue.
J'ai lu, ça on y a pensé pendant la saison, moi, et ça a l'air d'être officiel, que les Spurs ne seraient pas intéressés pour faire venir Trae Young,
ouais,
apparemment.
Ça fait chier. Ouais. C'est Pop qui a dû dire que ce gars l'intéresse.
Ce petit con, j'en veux pas.
Mais c'est possible. Et ça doit avoir un vrai level de petite connerie pour que même Pop dise j'en veux pas. Non, j'en sais rien, c'est peut-être une histoire d'argent et tout. Mais Curry, j'avais jamais pensé, ça me fait rêver un peu quand même.
Mais dans tous les cas, ça va être excitant parce qu'ils vont être obligés de l'entourer un peu plus, donc on va être aux aguets tout l'été là.
Mais franchement, je serais Curry, je me dis en fait ma vraie chance de dernière bague, c'est cette énorme personne au pénis. Et pour les deux quoi. Non mais je pense que pour Victor, il a besoin d'un vrai vétéran excellent et lui, il a besoin d'un gars incroyable pour les deux dernières années à très haut niveau qui lui reste. Que ça pourrait être une super, super alliance en fait pour les deux qui fonctionnerait. Franchement, une équipe avec Curry ou Wembanyama, un vétéran et les jeunes qu'il y a derrière coachés par Pop, pour moi, c'est direct top 6 de conférence. Quoi. J'y crois tout de suite. Quoi.
Je sais pas. Je sais pas. Ce serait. Non, c'est tellement loin, tellement. Tu vois, moi, photo montage, je réagis pas comme ça.
Non, mais j'ai même pas dit que c'est possible. Je dis juste. Je ne l'avais jamais envisagé et en fait, ça me fait bander. Avec mon pénis normal d'humain normal, hein, j'ai de à peine 24 cm, je ne suis pas Victor, mais quand même.
Ok.
j'adore ton ok gêné derrière les blagues.
Il est bien sorti celui-là. Ok, on enchaîne. N'oubliez pas que pendant les playoffs, on vous sort en moyenne 2 épisodes par semaine. On se plie en 4 quand même pour vous faire vivre ça. Du plus proche possible, on peut pas faire ça tous les jours non plus, on a des vies, mais au moins 2 fois par semaine on va essayer de tenir cette promesse là et voilà, nous ça nous fait bien kiffer, vous avez vu, on regarde beaucoup des matchs et encore plus peut-être avec ce petit League Pass pour moi qui se profile, et rejoignez-nous sur Instagram et X bien sûr, Airball Podcast, on est là, on poste quelques conneries, on vous a mis nos pronos d'ailleurs aussi pour les oppositions du premier tour, Et la petite vidéo de Pat Bev sur les Whited Skies in NBA qui a bien fait marrer les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit, nous, Urbain ? Vendredi, samedi, t'en dis quoi ?
Je sais pas, ouais.
Ça change pas grand-chose en termes de match, parce que de toute façon, samedi, on a tous les soirs.
Ouais, je pense samedi.
Tu penses samedi ?
Ouais.
Allez.
Quoique, non, on s'en parle jeudi soir.
On s'en parle jeudi, très bien. Eh ben, soyez au taquet sur vendredi ou samedi, alors. Ça va sortir, ça c'est sûr. On aura un deuxième avant dimanche d'épisode d'Airball. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour.
On a fait le tour, c'était bien.
On vous embrasse, les petits Airbolos, c'était cool.
Merci les Airbolos, à très bientôt. Salut mon ami chevelu.
Allez, à très vite le chauve.
On joue au basket, on arrête ce cirque.